Grand Angle.
Grand Angle sur Radio Orient. Déjà 107 milliards d'euros de déficit pour l'État français en 6 mois. Au premier semestre, les dépenses de l'État ont dépassé ses recettes de 106,8 milliards d'euros, selon des chiffres diffusés au début du mois. Une dégradation par rapport à 2025 qui montre toute la difficulté du redressement des comptes publics. Alors, comment réduire le déficit public tout en préservant la croissance et le pouvoir d'achat ? Pour en parler, notre invité est Mathieu Plane, économiste et directeur adjoint du département Analyse et Prévision de l'OFCE. Bonjour.
Bonjour.
Sur 6 mois, les dépenses totales s'inscrivent en augmentation de 5,6%. Cette évolution est en particulier tirée par le paiement des intérêts de la dette. Et dans le contexte de fortes tensions géopolitiques, il y a aussi l'accroissement des dépenses militaires. Pourriez-vous nous expliquer ce que signifient ces chiffres ? Est-ce forcément représentatif de l'évolution annuelle ?
Alors c'est un indicateur, hein. Ça ne représente pas tout parce qu'on est sur un périmètre qui est uniquement le budget de l'État. Alors qu'il faut savoir que ce que suit le gouvernement ou le ministère des Finances est un peu plus large, qu'on parle surtout de l'ensemble des finances publiques. Et donc quand on parle de déficit ou de dette publique, ça englobe également tout ce qui est sécurité sociale, donc protection sociale, mais aussi les collectivités locales. Donc ça, c'est important parce que c'est quand même pas négligeable, hein, c'est le périmètre de l'État, mais ça représente à peu près 40% de la dépense publique, donc c'est pas l'ensemble. Mais ça donne le thermomètre, ça donne la température, et ce qu'on peut voir, c'est que la difficulté, hein, actuelle pour le gouvernement, dans le contexte que l'on connaît, c'est de faire en sorte qu'on ait un déficit public qui n'augmente pas trop. Même le gouvernement s'était engagé à ramener le déficit qui a été de 5,1% en 2025 à 5% en 2026, donc c'est une légère baisse. Or, on ne peut pas complètement écarter, au regard des chiffres que vous avez annoncés, qu'on ait une augmentation à nouveau du déficit cette année, ce qui serait quand même assez embêtant. Donc, avec deux éléments que vous mettez bien en avant. Un premier, qui est celui qu'on subit, qui est quoi ? C'est la hausse de la charge d'intérêt. Ça veut dire quoi ? C'est que l'État rembourse chaque année des intérêts sur l'endettement qu'il va réaliser. Donc il paye des intérêts aux créanciers. Or, il se trouve que ces taux d'intérêt ont fortement augmenté ces derniers mois. On a atteint même un taux d'intérêt supérieur à 4% pour l'endettement de l'État, la dette émise à 10 ans. Ce qui est un niveau qu'on n'a pas connu depuis plus de 10 ans, hein, donc c'est quand même très élevé. Et ça vient, effectivement, plus votre taux d'intérêt est élevé sur votre dette, plus la charge que vous allez devoir consacrer à la dette va être importante. Et ça, il y a un surcoût, effectivement, de cette charge d'intérêt qui est supérieure à ce qu'avait anticipé le gouvernement, et donc qui vient directement impacter les finances publiques. Et puis, deuxième point, mais celui-là, il était attendu, hein, c'est qu'on a un effort de défense, avec une montée en charge, on a une nouvelle loi de programmation militaire, et donc un effort de défense qui est conséquent, et donc une dépense militaire qui est forte. Et donc ces deux éléments-là, effectivement, vont être les principaux moteurs de l'augmentation de la dépense publique de l'État.
Et on a aussi eu cette semaine la nouvelle d'une hausse du chômage. Pour la 6e fois de suite, le taux de chômage a augmenté au 2e trimestre et se rapproche des chiffres de 2017. Comment l'instabilité géopolitique, notamment avec le conflit en Iran, contribue à ce ralentissement économique ?
Oui, alors en fait, il y a plusieurs facteurs hein, qui vont jouer sur l'économie française. Hein, et pour faire le lien avec la question précédente, c'est que le problème, c'est quand votre dépense augmente, si les recettes fiscales n'augmentent pas, vous avez du déficit. Et les recettes fiscales elles-mêmes vont être, soit les impôts, hein, les recettes fiscales, les cotisations, elles-mêmes vont dépendre de la croissance. Et donc la croissance est un moteur important. C'est-à-dire que la croissance permet de générer des recettes fiscales qui permettent de financer ces nouvelles dépenses. Or, ce qu'on voit, et ce que vous avez assez justement dit, c'est que depuis quelques mois, on a un choc lié au prix de l'énergie hein, qui vient impacter directement l'économie française. On le voit à travers la hausse des prix, le rebond de l'inflation est lié notamment au prix du pétrole. Et donc, ça va impacter le pouvoir d'achat des ménages. Mais donc leur consommation, la consommation, c'est un des moteurs de la croissance. On voit que les entreprises sont assez frileuses aussi pour investir. Et donc, on a une croissance sur les 6 premiers mois de l'année, en fait, qui est proche de zéro. Donc on n'a pas de croissance. Et donc on a une forme de, au mieux de croissance molle, voire de croissance zéro. Or, dans un contexte avec une croissance aussi faible, et avec l'incertitude que vous avez évoquée, les entreprises, en fait, n'ont pas suffisamment d'activité pour embaucher massivement. Et donc, au mieux, elles maintiennent leurs emplois, et dans certains cas, même, elles vont réduire leurs effectifs. Et donc, forcément, si vous avez peu d'activité, bah, vous créez peu d'emplois, voire même vous en détruisez. Et moins il y a d'emplois, plus il y a de chômage. Et ça, c'est vrai que ça s'est accentué ces derniers mois, mais on est sur cette trajectoire maintenant depuis un peu plus d'un an. Donc on a une forme de retournement du marché du travail maintenant depuis un an et demi. On avait atteint un niveau de taux de chômage qui était assez proche des 7%. Désormais, on est au-dessus des 8%. Et j'allais dire, malheureusement, ça devrait se poursuivre dans les trimestres à venir.
Et le contexte politique avec la perspective de l'élection de 2027 peut aussi avoir un impact négatif sur ces tendances ?
Oui, alors on a commencé en fait à le voir, hein, cet impact négatif dès, j'allais dire, si on parle d'éléments politiques, depuis la mi-2024 avec la dissolution. Et en réalité, la dissolution, elle a conduit à un éclatement politique assez fort, et on voit qu'aujourd'hui, il est très difficile, par exemple, d'adopter un budget. Or, un budget, c'est quand même l'ossature financière, hein, d'un pays, et donc sans budget, il est difficile de se projeter. Et la réalité des choses, c'est qu'on, nous, on l'a mesuré à l'OFCE, hein, c'est que depuis 2024, on a une incertitude internationale, mais aussi une incertitude nationale, qui va jouer aussi sur le comportement à la fois des ménages, hein, qui épargnent plus qu'avant, et donc qui consomment moins. Donc ils mettent quelque part de l'argent de côté, cette forme d'épargne de précaution face à cette incertitude, et des entreprises qui sont assez frileuses, parce qu'elles ont du mal à se projeter dans l'avenir, parce qu'elles ne savent pas exactement quelles décisions peuvent être prises d'un point de vue fiscal, d'un point de vue des aides, etc. Et donc elles vont investir moins que ce qu'elles pourraient réaliser. Et j'allais dire, cette séquence a été ouverte maintenant il y a 2 ans, mais elle risque de s'amplifier à la fois avec le débat budgétaire de la rentrée, c'est-à-dire qu'il faudra quand même adopter un budget pour 2027. La question, c'est est-ce qu'on va être en capacité de trouver un compromis ? Et si compromis il y a, est-ce que ce compromis permet quand même de réduire le déficit ? Rappelons que la France a un déficit supérieur à 5% du PIB, ce qui en fait le plus mauvais élève quasiment de la classe européenne, et ça c'est quand même assez problématique. D'ailleurs les marchés nous sanctionnent là-dessus avec des taux d'intérêt assez élevés. Et puis même si on a trouvé un accord budgétaire, ce qui serait plutôt une bonne chose, derrière très vite va s'enclencher la présidentielle, en tout cas la campagne présidentielle, avec des programmes qui peuvent être très différents. Or, ce qu'ont besoin, que ce soit les entreprises, mais les investisseurs aussi étrangers, les ménages, c'est aussi d'avoir une forme de sécurité. C'est de savoir comment on se projette dans l'avenir et sous quelle forme et quelles mesures pourraient être prises. Or, aujourd'hui, on voit qu'on vit dans l'urgence, dans le court terme, on a très peu de perspectives et cette incertitude, bien sûr, est jamais bonne pour la croissance parce que ça joue sur les anticipations et ça crée une forme d'extrême prudence. Et quand vous êtes trop prudent, bah soit vous ne consommez pas, soit vous n'investissez pas et ce n'est pas bon pour l'économie.
Et dans une tribune que vous aviez écrite en 2024, vous affirmiez un choc budgétaire surdimensionné anéantirait la croissance tout en augmentant les dégâts économiques et sociaux. Oui. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a compris cela ?
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Le gouvernement, je pense, qu'il navigue dans un problème politique. C'est-à-dire que je pense que lui-même a une certaine vision des choses, mais l'Assemblée nationale en a une autre. Et la question, c'est comment arriver à des accords de compromis pour faire en sorte qu'un budget soit adopté et qu'il ne soit pas censuré ou que le gouvernement ne soit pas renversé. Donc on voit bien qu'on n'est pas face à un problème économique. Là, aujourd'hui, on est face à un problème politique. La France a un certain nombre de problèmes, mais elle a aussi des atouts d'un point de vue économique. Donc ce n'est pas la catastrophe. Il ne faut pas croire que l'économie française est vraiment dans une difficulté terrible. La grande difficulté de la France, c'est cette question politique. C'est qu'aujourd'hui, on est une situation qu'on n'a jamais connue. Et la difficulté, c'est de trouver, d'apporter des solutions et de trouver des mesures qui peuvent être adoptées à l'Assemblée nationale. Or, aujourd'hui, on n'a pas de feuille de route. On ne sait pas exactement comment les choses vont être faites. On le sait, là, on voit, y compris sur la rentrée, sur le budget qui peut être adopté. On voit qu'on a une énorme incertitude. Et c'est vrai que le risque, il est soit de ne rien faire, d'un côté, parce qu'on ne peut pas ne rien faire. On doit prendre des mesures à la fois pour préserver la croissance, l'avenir, mais aussi réduire les déficits. Et le risque inverse, c'est de vouloir en trop en faire, c'est-à-dire dire on va réduire très vite les déficits publics. Et là, c'est ce que je disais, c'est que le risque, c'est que ça pourrait avoir des effets contre-productifs. Donc il faut trouver une stratégie crédible. Et la réalité, c'est que il faut surtout retrouver de la crédibilité. Et c'est-à-dire la crédibilité, elle se dessine sur le moyen et long terme. Or, aujourd'hui, on a des politiques de court terme.
Vous parlez des risques de trop faire. Sur la question du gel partiel des retraites des plus aisés l'année prochaine, donc c'est une mesure qui est envisagée, qui pourrait permettre d'économiser plus d'un milliard d'euros aux finances publiques. Est-ce que vous pourriez expliquer quel serait son impact et sur quels retraités?
Alors, l'idée de gel de l'indexation, en tout cas pour les retraites les plus aisées, donc l'idée circule que ce soit les retraités qui ont une pension de retraite globale de plus de 3 000 euros par mois. Il faut savoir, juste peut-être pour rappeler comment le système fonctionne en France, normalement, les retraites sont revalorisées en début d'année en fonction de l'inflation. Et donc là, l'inflation est attendue en fin d'année autour des 2%, ce qui veut dire que si vous voulez que les retraités ne perdent pas en pouvoir d'achat, il faut que la retraite augmente de 2%. Il faut savoir qu'aussi, à chaque fois que vous revalorisez, vous maintenez le pouvoir d'achat des retraités, il y a un coût budgétaire parce que l'ensemble des dépenses de retraite, ça représente 400 milliards. Et donc, si vous mettez 2% de plus pour maintenir le pouvoir d'achat des retraites, mécaniquement, vous allez augmenter de 8 milliards l'ensemble des dépenses de retraite. Donc, une tentation pour le gouvernement, c'est de dire, finalement, on ne va pas augmenter autant que l'inflation les retraites. Alors, pour préserver les retraités de la classe moyenne ou les plus modestes, c'est dire, en fait, on va juste geler les pensions de retraite de ceux qui ont plus de 3 000 euros par mois, qui ont donc les moyens d'absorber ça. Et donc, l'idée, c'est de dire que si vous gelez les pensions de retraite de personnes de plus de 3 000 euros, elles vont avoir une perte de pouvoir d'achat de l'équivalent de 2%, en réalité, pour ces personnes-là. C'est la vraie contrepartie. Par contre, le gain budgétaire, c'est que vous allez moins dépenser d'argent pour la revalorisation de ces personnes-là et vous allez faire une économie d'un peu plus de 1 milliard d'euros concernant ces personnes-là. Il faut savoir que ça concerne à peu près, c'est un peu moins de 10% des retraités en France, je crois que c'est 8%. Mais forcément, fatalement, j'allais dire, mécaniquement, il y a une forme un peu d'injustice parce que ces retraités-là, finalement, vont se retrouver à connaître une baisse de leur pouvoir d'achat et vont, du coup, être mis à contribution pour redresser les comptes publics. Et donc, ce n'est pas une mesure collective, c'est juste cibler une certaine catégorie.
Merci Mathieu Plane, économiste et directeur adjoint du département Analyse et Prévision de l'OFCE.
Merci à vous.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Orient et sur Spotify.
C'était Grand Angle.